Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Encore une heure à passer ensemble avec les grandes gueules du sport aujourd'hui. Marion Bartoli, Marc Madiot, Sarah Pitkowski, Ludovic Duchesne. Bonnes vacances à tous si vous en avez. Bon courage si vous êtes sur la route ou si vous travaillez. Et si vous vous réveillez seulement, bah vous êtes un peu en retard. Mais c'est pas grave, on a le podcast à disposition sur l'appli RMC. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne rien rater des épisodes des grandes gueules du sport. Dans 30 minutes, ce sera le débat caché. Vous le savez, les GG ne savent rien. Elles vont devoir débattre. Vous connaissez le principe. Petite idée, messieurs, dames? Non, Ludovic, bon, c'était pas très radiophonique, m'a fait une moue. Genre, je n'en sais rien.
Non, j'ai pas dit qu'il n'y a pas trop d'événements en ce moment. Le Star Game?
Peut-être.
Ah oui, peut-être.
Moi, j'en ai eu une idée qu'est devenu notre ministre des Sports au gouvernement précédent.
Ah.
Gilles Rousseau. On sait pas. On lance un appel d'ailleurs.
Ah, c'est vrai qu'il n'est pas resté longtemps.
Mais on va peut-être pas faire
un débat très long là-dessus, quoi. C'est ça le problème.
Non. Il est reparti à Châteauroux et c'est pas facile.
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas parler de politique dans ce débat caché? On peut parler de tout, vous le savez. Bon, a priori, vous n'avez aucune idée. C'est très bien. À 11h45, ça sera les GG.
Du ski, non? Peut-être du ski.
32-16, en tout cas, pour nous rejoindre dès maintenant. Les GG et vous, c'est votre moment, hein. Vous pouvez interpeller une grande gueule si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui avait été dit dans l'émission. N'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant au standard. Mais d'abord, pour le vélo français, on espère que ce sera champagne toute l'année.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.
Valentin Madouas deuxième, Christophe Laporte troisième, quelle équipe de France de folie!
Ça va. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça.
Pour toi, pour ta famille, pour le cyclisme français, pour les Bretons, tu dois le faire.
Un Français ne désespère jamais.
Allez, pour ta famille, pour nous, pour nous tous, pour les Français, pour la France, tu vas la faire faire. Elle est là. Allez.
Le triomphe du cyclisme français.
Un événement est prévu, donnant enfin l'avantage aux Français.
Allez, Thibaut, allez. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui,
On ne se lasse pas des commentaires de Marc Madiot. Et notamment cet été avec la deuxième et troisième place, Madouas Laporte. Tu t'en es remis? Parce que c'était incroyable. Hein.
Oui.
À l'antenne, c'était formidable. Avec Arnaud Souk là.
Ah oui.
Magnifique. On a encore les frissons. Hein.
Ouais, moi aussi.
Non, vraiment, c'est. Tu te la. Ah oui, tu revois la course.
Les mots et les séquences sont un peu détournés parfois, de manière humoristique.
Ah oui, c'est vrai.
Sur Twitter, on trouve des trucs.
Mais en tout cas, c'était génial. C'était génial à vivre et de vivre ça avec toi. C'était un des grands moments, évidemment, pour le cyclisme français, ces Jeux Olympiques. Il y a eu aussi les 3 victoires d'étape sur le Tour, le maillot jaune aussi porté par l'ami de Ludovic Duchesne, Romain Bardet, qui prendra sa retraite cette année. Il va avoir une petite larme, Ludo. Mais c'est vrai qu'on se pose la question, puisqu'on sait qu'il y a l'ogre Pogacar, il y a les concurrents Vingegaard, Evenepoel, il y a les stars des classiques aussi, comme Mathieu Van Der Poel. Bref, est-ce qu'il va y avoir de la place pour nos Français? Est-ce que ce sera une grande année pour le cyclisme français? Je vous pose la question, les GG. Oui ou non? Ludovic Duchesne.
La mort dans l'âme, non.
Marion Bartoli.
Moi, je suis une grande optimiste, donc j'y crois toujours.
Sarah Pitkowski.
Bah, raisonnablement, non.
Marc Madiot.
Qu'est-ce que vous êtes pessimiste?
Est-ce qu'on peut utiliser le terme désespérant? Est-ce qu'on peut être réaliste?
Oui, je te suis là-dessus.
Mais attendez, on est à la fin de l'année 2024. Pour moi, il y a des sources d'espoir et je suis très optimiste.
Très bien. Bah, on va pouvoir en débattre, mais juste avant de vous entendre plus longuement, on va accueillir Arnaud Souk. Salut Arnaud.
Salut les GG, salut à toutes et à tous.
Tour d'horizon avec toi. Pour nous faire espérer justement du réservoir français en vue de 2025, un réservoir plein de promesses.
Avec des promesses et des confirmations, voilà ce qu'on est en droit d'attendre de nos Français du vélo en 2025. Les promesses, d'abord celles des jeunes, à commencer par Lenny Martinez. 5 victoires au cours de la saison 2024 sous le maillot de la Groupama FDJ. Le canois parti sous les couleurs de la formation Bahrain Victorious espère y passer un cap supplémentaire. Il est l'un des grands espoirs du cyclisme tricolore cette saison. Son ancien coéquipier resté lui chez Groupama FDJ, Romain Grégoire, est sorti frustré de son année écoulée, certes marquée par une victoire d'étape sur le Tour du Pays Basque, mais aussi par de nombreuses places d'honneur, notamment sur le Dauphiné, qu'il aurait aimé voir se transformer en victoire. Il espère lui aussi passer ce petit cap supplémentaire cette année pour enfin faire honneur à son rang d'immense espoir, notamment sur les classiques. Et puis pour ce qui est du sprint, Paul Magnier portera lui les couleurs de la jeune garde tricolore du haut de ses 5 victoires cette saison. Les autres jeunes que l'on espère voir éclore en 2025, Léo Bizio et Paul Sexas, coureurs pleins de talent et qui passent professionnels à compter du 1er janvier chez Decathlon à G2R. Les deux ont fait de superbes résultats chez les catégories jeunes, notamment sur les classiques et les courses à étapes. Enfin, on rend des confirmations, espérons voir des jeunes déjà plus affirmés se hisser parmi les meilleurs. Axel Zingle chez Visma Liesebike, qui est un formidable chasseur de victoires et aura notamment la charge d'épauler Laporte et Van Aert, mais pourra aussi sans doute jouer sa carte personnelle. N'oublions pas Pavel Sivakov, qui n'est certes plus un espoir, mais qui espère, après avoir passé un cap cette année chez UAE Team Emirates, se hisser dans la lutte pour les classements généraux sur les courses à étapes.
Merci beaucoup Arnaud, à très bientôt sur RMC. Arnaud qui suit le vélo évidemment pour RMC. Je rappelle donc la question: la saison 2025 de vélo sera-t-elle une grande année pour le cyclisme français? Alors avant d'entendre la team oui composée de Marion Bartoli et de Marc Madiot, voilà ceux qui sont désespérants, comme l'a dit Marc, notamment Ludovic Duchesne qui aime le vélo mais qui a dit non.
Non, mais je trouve qu'on vit une espèce d'âge d'or du vélo en ce moment, mais parce que quand tu as les Pogacar, les Vingegaard, les Van Poel, déjà pour les grands tours, c'est très compliqué, même si moi j'attends toujours plus de David Gaudu, mais voilà. Et après, sur les courses d'un jour ou sur les monuments, on a envie d'y croire. J'espère que Julien Alaphilippe, qui s'est extrait de son équipe, va retrouver la plénitude de son talent et nous faire vibrer encore une fois, pourquoi pas lors des prochains championnat du monde, pourquoi pas reporter un monument avec Christophe Laporte. Moi j'ai très envie, j'en rêve même. Après, de là à dire qu'on va faire une grande saison, je ne suivrai pas Marc, mais il est mieux placé que moi, et sincèrement dans ce débat j'espère que je me trompe.
Alors avant de donner la parole à Marc Madiot qui va peut-être tous vous mettre d'accord, Sarah, tu rejoins Ludo?
Je me dois d'être réaliste et factuel. Alors c'est vrai que dans la présentation, on a entendu ces formidables médailles aux Jeux Olympiques, mais c'est un épiphénomène. Forcément, il n'y avait pas toutes les nations, il n'y avait pas tous les coureurs, donc il faut pas se baser sur ce qu'on a vécu sur les Jeux Olympiques, qui a été une parenthèse juste exceptionnelle. Mais comme le dit Ludo, et c'est un petit peu comparable au tennis, c'est-à-dire qu'on peut avoir des excellents coureurs français, mais il y a une génération de coureurs au-dessus, c'est des extraterrestres, tu viens de le dire, que ça soit Vingegaard, Pogacar, Evenepoel sur les grands tours. C'est comme quand on disait mais pourquoi on n'a pas un Français qui gagne un grand chelem. Quand tu tombes dans une génération où t'as Nadal, Djokovic et Federer, malheureusement t'es réduit.
Les Françaises
les Françaises l'ont fait, et il y a eu des finales en grand chelem pour certains Français. Mais donc, est-ce qu'une grande année pour le cyclisme français, c'est de se dire qu'on va jouer les seconds rôles? Est-ce que c'est ça? Parce que si on nous dit ça, oui, je pense qu'il y a des Français qui sont totalement à même de jouer les seconds rôles sur les grands tours avec des étapes. Après, sur les classiques, il faut qu'on ait un Christophe Laporte qui soit au top. Il faut qu'on ait un Valentin Madouas qui soit au top. Après, les jeunes, je suis pas assez pointu pour dire où en sont les jeunes, mais quand je regardais, et là je me tourne un peu vers Marc, on est un peu un parent pauvre du côté des sprinteurs sur des jeunes en l'occurrence.
Oh, Magnier, c'est pas mal.
Ouais.
Mais enfin, on n'a pas un gros réservoir.
Oui, mais non, je suis plutôt optimiste, moi, dans la jeune génération qui tourne autour des 20 ans. On a une belle.
Mais c'est peut-être un peu trop tôt pour 2025.
Non, ça va vite maintenant. Non, je pense qu'un Grégoire, par exemple, peut être dans le final d'un Milan-San Remo, d'une Strade Bianche, d'un Liège-Bastogne-Liège. Ouais. Donc, alors après, c'est sûr que quand il y a Vingegaard ou Evenepoel, c'est pas simple. Mais je pense qu'on peut être très actif et très présent avec tous ces jeunes Français qui arrivent.
Enfin, il y a un côté. Enfin, en tout cas, moi, je me positionne pas comme étant ultra ambitieuse et positive parce qu'il y a un côté aléatoire.
Il y a un côté aléatoire. Parce qu'on mais... a. Moi, je voudrais tordre le cou à une vieille habitude qui est de dire en France on sait pas s'entraîner, les équipes sont moins bonnes et tout. Là, je viens de recruter Rémi Cavagna qui a fait l'essentiel de sa carrière chez Quickstep, qui était chez Movistar l'année 2024. Il était perdu et quand il est arrivé chez nous, il avait une appréhension de venir dans une équipe française. Il est français mais il avait une appréhension. Et puis c'est un deal qui s'est fait au dernier moment. Il est arrivé avec nous il y a quelques jours ou quelques semaines maintenant sur le premier stage en Espagne. Il a été très surpris de la qualité de ce qu'on pouvait lui proposer pour performer. Et je suis sûr qu'un Cavagna, par exemple, qui a été inexistant sur la saison 2024 va retrouver son niveau qu'il avait chez Quickstep parce qu'il s'aperçoit que au sein d'une équipe française on est capable de lui donner les mêmes moyens que sur les grandes formations internationales. Alors certes on a moins de moyens, mais la qualité du travail et la qualité de ce qu'on peut proposer aux coureurs est intéressante. Et moi je suis persuadé qu'un Romain Grégoire va performer. Sur le plus haut niveau international, j'ai pas de doute là-dessus, et puis d'autres coureurs chez G2R également vont le faire. Il faut pas qu'on se sous-estime. Quand on regarde la photographie aujourd'hui, bah tout de suite on est dans le défaitisme. Oh là là, bah non, ça va pas le faire. Mais si, ça va le faire. Moi, je trouve que on a des jeunes de qualité.
Ça dépend ce qu'on appelle ça va le faire.
Je suis d'accord. On va pas gagner le tour. On va pas gagner le tour. Mais un Gaudu peut revenir dans le top 5 du Tour de France. Et d'autres coureurs, les Laporte et autres, et Madouas et compagnie peuvent faire de belles choses sur les classiques. Et pourquoi s'interdire d'en gagner une?
J'en profite que. Parce que tu es là, Paul Sexas, c'est la dernière merveille du vélo français.
En tous les cas, il a des prédispositions qui semblent exceptionnelles. Après, laissons-lui le temps d'apprendre son métier. Mais,
il a 20 ans, non
c'est il a 19 ans, 19 je crois. Ans. Mais il est dans la liste des jeunes coureurs français qui ont tout ce qu'il faut pour performer au plus haut niveau.
Lui, il roule bien, il grimpe bien.
Donc pourquoi pas.
Marion, toi, tu es optimiste aussi.
Non, mais je suis complètement alignée avec Marc. Et puis quand on voit Romain Bardet l'année dernière qui fait deuxième de Liège-Bastogne-Liège et qui est vainqueur de la première étape du Tour de France, alors qui est en jaune, oui, une journée, ok, mais qui a quand même été capable de faire de très belles choses. Alors après, tout dépend de là où on place le curseur. Si on se dit qu'effectivement on va avoir un coureur français qui va faire une année meilleure que Pogacar, certainement pas, ou en tout cas je pense pas. Mais comme le dit Marc, faire un top 5 d'un Tour de France, pourquoi pas s'illustrer sur une course d'un jour ou sur un grand monument. J'en suis fortement convaincue qu'ils en ont la capacité de le faire. Alors, Pogacar a jeté son dévolu sur Milan-San Remo parce que c'est le seul monument qu'il n'a pas gagné, donc il a vraiment envie de le faire. Paris-Roubaix, je pense que ça sera jamais un de ses objectifs parce qu'il est trop léger pour pouvoir aller la chercher, mais en tout cas, Milan-San Remo, il veut absolument le gagner en 2025, mais les Français peuvent s'illustrer faire un top 3. Faire un top 3, c'est déjà un très beau résultat. En fait, tout dépend de là où on se dit que c'est une grande
année, c'est qu'ils sont français.
En fait, c'est ça au départ.
Oui, exactement.
Moi, j'ai une question. J'ai une question pour Marc. Est-ce que tu penses qu'un Français peut aller chercher un Paris-Roubaix en 2025 ou pas?
Je viens de te dire Laporte. Pourquoi pas?
Est-ce que tu penses que Alain Philippe va revenir à son meilleur niveau dans sa nouvelle équipe?
Alain Philippe, il a déjà beaucoup donné. Hein. Je pense qu'il est capable de refaire des coups d'éclat sur un San Remo. Il l'a déjà gagné. Il peut jouer la gagne sur un San Remo. Sur un Tour des Flandres, ça me paraît déjà plus compliqué. Un Liège-Bastogne, avec un peu de réussite, ça peut passer. Et puis, il va surtout essayer de refaire des belles apparitions sur le Tour si son équipe est retenue, parce qu'il y a quand même une incertitude pour lui. C'est la présence de Tudor Red Bull sur le Tour de France. Mais je pense qu'Alain Philippe, il a tout ce qu'il faut pour faire une bonne saison. Après, comme tu le disais, ça dépend à quel niveau on met le curseur. Mais je pense qu'Alain
Faut pas le mettre trop, visiblement, quand même, à vous écouter. Faut pas mettre le curseur trop.
Il faut être présent, exister
et gagner dans le World Tour de manière régulière. Et ce sera très bien.
Oui, de gagner de manière régulière, oui, ça c'est ce qu'on souhaite, mais pour l'instant, enfin 2024, il y a des jeunes coureurs, il n'y a pas eu grand chose.
On l'a vu sur le Tour de France avec Kevin Vauclin, c'est pareil,
qui a
un talent fou.
Romain Grégoire, là c'est ouais. Marc le connaît mieux que nous, mais voilà, c'est des jeunes coureurs qui franchement dont on attend
énormément. Il a fait beaucoup de places de deuxième et beaucoup de places dans les top 5 sur ouais. Les courses notamment de fin de saison en Italie. Si l'on transforme ne serait-ce qu'un tiers en victoire, ça fera une belle saison. Ouais. Hein. Mmh.
Il y a aussi Lenny Martinez, vous en parlez pas. Alors c'est ton ancien coureur Marc qui a fait le choix de quitter Groupama pour rejoindre Bahreïn.
Alors vous voyez par exemple, il va chez Bahreïn.
Voilà.
Et Bahreïn est globalement une équipe moins bonne que la nôtre.
Bahreïn victorieuse.
Mais ils ont plus d'argent que toi, je crois.
Mais ils ont plus de moyens, voilà.
Mais Milan Herzen a dit, donc le patron de Bahreïn, qu'il voulait en faire le meilleur coureur français de la décennie.
Là, si tu veux, il n'y a pas eu une
éclair
dans le
courage, c'est ça que tu veux leur dire.
Non, mais
on en a beaucoup parlé. Lenny
a fait un choix, il a fait un choix, je le respecte. Je le respecte. Après, il ne va pas trouver forcément beaucoup mieux chez Bahreïn que ce qu'il avait chez nous. Voilà, c'est tout.
En termes de préparation, ça, vous êtes largement.
D'accompagnement.
C'est ça. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que tu disais, même dans le peloton, il y a cette méfiance autour des équipes françaises. C'est ce que tu nous disais par rapport à Christophe Laporte qui était surpris.
On a tellement rabâché que les équipes françaises étaient mauvaises, qu'ils ne savaient pas s'entraîner, qu'on n'était pas structuré, qu'on n'était pas organisé, qu'on n'était pas si, qu'on était vieille époque, etc., etc. Moi, quand j'ai des étrangers qui arrivent dans mon équipe, ils sont tous très surpris. Il y a aussi beaucoup d'intox et beaucoup de communication autour du fonctionnement des équipes. Les gains marginaux que nous ont vendus pendant plusieurs saisons Ineos et Sky ont fait des petits. Et c'était forcément mieux à l'étranger. Et on s'aperçoit que c'est pas toujours le cas.
Non, puis on se rappelle que l'année dernière, l'autre équipe française, Décathlon,
ouais.
a énormément gagné. Une des équipes qui a le plus gagné en World Tour.
Oui, mais pas avec des coureurs français.
Bah aussi, si.
Les Français
ont gagné aussi.
La nationalité n'a que peu d'importance dans la vie d'une équipe. Ce qui compte, c'est de gagner, que ce soit avec un Français ou un étranger, le travail est le même.
Toi, c'est le même sentiment, Marc, dans ton équipe, si un Français gagne ou un autre coureur étranger.
Moi, j'ai pas de problème avec ça. Du moment que ça gagne, c'est le plus important.
C'est bon.
Ouais, c'est bon. Ouais.
Bon, en tout cas, pour rejoindre ce que disait Sarah et Ludo, c'est vrai, quand on voit le plateau à nouveau en 2025 avec Pogacar qui sera encore là, qui veut se présenter quasiment
partout. Il a un nouveau guidon qui va apparemment faire aller encore plus vite.
On a tous des nouveaux guidons, on a tous des nouveaux vélos.
Voilà. Mais ça lui permet d'aller plus vite, oui, de gagner des watts. Ce guidon mouette, là, vous n'avez pas l'utilisé, vous, à la FDJ,
guidon mouette ? On n'a pas de guidon mouette. Ah, bon. On a autre chose.
Ah, des petits.
Vous avez un guidon quand même, rassurez-moi.
On a un guidon.
C'est le principal.
Ça, c'est le plus important. En tout cas, Boris nous dit voilà, aucun Français ne gagnera de classique cette année. Poggi sera au départ de Milan, autour des Flandres, à Liège. Et s'il se rate, il y a Van der Poel, il y a Evenepoel.
On n'est pas dans les super favoris, mais on est en deuxième
en fait,
briseau, on est là.
Sont quand même des monstres.
Les courses, tant qu'elles sont pas
quand même des monstres. Et pour faire la comparaison avec le tennis, qui rafle tout.
Non, mais là, c'est faux. Marion l'a dit, je le remercie. Remardet fait deuxième de
l'Liège-Bastogne-Liège. Ah, donc tu rejoins l'équipe.
Non, mais pour le coup, ça veut dire que c'est possible. Moi, je crois
deuxième
que
deuxième de l'Liège-Bastogne-Liège, c'est l'équivalent d'une finale de Grand Chelem. Oui.
Paris-Roubaix, je pense que Christophe Laporte l'a dans les jambes. Quand il est dans un grand jour, Christophe Laporte, il peut, je pense, gagner pratiquement n'importe quelle course, aidé peut-être par Jurgensen, par voilà, il a aussi une grosse équipe autour de lui. Donc ou Van Aert, s'il est présent. Donc je trouve que non, les Français et Laporte peuvent gagner. Madouaze peut gagner une grande course.
Bon bah finalement t'es plutôt.
Non moi j'ai envie.
Il y a du positif.
Ah, il a changé.
Il a changé.
Non mais moi j'ai envie.
Là vous l'avez retourné mais facilement.
Calum Philippe soit champion du monde. On va tout gagner.
À 11h28, justement, on va demander à Jérôme s'il est positif, optimiste, ou il fait partie de la team un peu plus mesurée. Jérôme est avec nous, salut.
Salut les grandes gueules.
Bonjour. Alors, fan de vélo, j'imagine. Comment tu vois la saison 2025 pour les coureurs français?
Fan de Valéo, fan de Marion, fan des GG.
Voilà.
Ah, merci.
Mais je lui ai déjà dit, elle le sait.
Des admirateurs.
Pour parler un petit peu plus du sujet, je suis pas optimiste, je suis pas pessimiste non plus. Je pars du principe qu'on a des coureurs français qui ont du talent. Je pense que Lenny à la Bahreïn aura des cartes. Je pense que Valentin au Paris-Peintre aura des cartes à jouer. Madouas avec sa bonne place au JO et depuis quelques années montre que c'est un coureur qui qui sur une course peut faire des choses sensationnelles, Benoît Cosnefroy sur la Brabançonne ou des choses comme ça. On aura des victoires françaises, on aura des belles choses, on verra ce que fera Julien également à la Tudor, mais sur les vraies courses World Tour, je pense que ça va être encore hyper cadenassé par la Jumbo, par Emirates, par Bora, qui a un gros collectif, la Lidl Trek, c'est une équipe très performante cette année. Et je pense qu'on aura, comme depuis plusieurs années, des belles victoires françaises. Je pense qu'on va se régaler de ces victoires-là, on va les prendre, on va en profiter. Mais je pense que vraiment, pour briller sur le World Tour, ça va être encore très très compliqué. Il y a un tel niveau d'écart, et un tel niveau d'écart financier, notamment, entre les gros mastodontes et les équipes auxquelles, enfin au sein desquelles nos coureurs français évoluent, que ça va être compliqué vraiment de briller au sens large du terme et vraiment raisonner fort. Je pense qu'on aura des placettes, on aura des belles courses, on aura des victoires, on va prendre du plaisir, mais
après, quand tu gagnes sur le Tour de France, c'est pas des placettes, hein. Là, c'est pour le coup.
Non, bien sûr.
Les Français en ont gagné 3, et de quelle manière en plus, les 3 étapes remportées. Je pense à Turgis à 3, c'était fantastique, ouais. Marc. Donc.
Non, mais le Turgis, ce qu'il fait, c'est magnifique. Quand Julien il a regagné cette année, c'était magnifique aussi. Enfin, moi, je prends du plaisir à chaque fois qu'un Français gagne une belle étape. Il y a pas de souci. Enfin, moi, c'est plutôt le terme de briller. Alors peut-être que je l'ai mal compris, peut-être qu'on est aussi faussé par le fait que Pogacar rafle tout ou choses comme ça. C'est ça peut-être, mais c'est vrai que quand tu gagnes une belle étape sur une World Tour avec la manière, c'est sûr que on peut considérer que ta saison elle est plutôt réussie. Je suis complètement d'accord là-dessus. Ouais. Mais c'est peut-être le terme briller qui.
Alors justement par rapport à ça, et là Marc, peut-être que tu vas pouvoir répondre, mais avant il y avait effectivement des Thibaut Pinot qui étaient capables de gagner des grands tours. Romain Bardet avait ça aussi peut-être dans les jambes, et il va s'arrêter cette saison en 2025. On est peut-être en manque de ce type de coureur. Est-ce qu'on forme encore des coureurs en France capables justement d'aller gagner un grand tour? Est-ce qu'on se dit pas d'office, de toute façon, on ne gagnera pas, donc on va jouer
Les seconds rôles, c'est ce que je disais.
Non, mais c'est pas un problème de formation, c'est un problème de génétique.
Ben, donc en France, on n'est pas capable d'avoir ce genre de...
C'est un problème de génétique. Aujourd'hui, le cyclisme est mondial, et on le sait dans tous les sports. Il y a des prédispositions génétiques, tu les as ou tu les as pas. Les prédispositions, si tu les as, tu peux les développer, les travailler, et tu obtiens de grands résultats. Mais donc, si t'as pas
les génétiques sont meilleures en Slovénie, par exemple.
En ce moment, elles sont meilleures en Slovénie, mais peut-être que pendant 50 ans qu'ils vont arriver derrière, il n'y aura plus rien. Donc ça, c'est aussi ça la magie du sport. Regardez Federer, ça a été le numéro un mondial du tennis. Il vient de Suisse, il n'y en avait pas eu beaucoup, si ma mémoire est bonne, avant. Et en ce moment, il n'y en aura peut-être plus avant longtemps. Donc, ce qui fait la différence, c'est le talent. Et les talents, on les travaille, mais il faut qu'ils existent aussi à la naissance.
Oui, mais il faut aussi, à un moment donné, justement, voir le talent et pouvoir travailler avec ce garçon-là.
Tu peux travailler avec tout le monde que tu veux, de la meilleure des manières, si tu n'as pas la pépite. Qui a dans ses gènes les qualités du champion extraordinaire, ouais. Mais quel que soit le travail que tu vas produire, tu n'arriveras pas au résultat.
Bon, voilà. Bon,
la meilleure chance, je crois, aujourd'hui, sur les grands tours, c'est David Gaudu, ouais. Avec Sivakov, peut-être.
Enfin, oui, mais voilà, mais il va faire les places d'honneur.
S'il fait 5 Gaudu, c'est
très bien. Non, mais moi, je parlais de coureurs français capables de gagner un grand tour. Il y en a eu.
Le problème, la donne est faussée parce que pendant de nombreuses dizaines d'années, on a été habitué à avoir des Français compétitifs sur le tour. Mais c'était l'époque où le cyclisme était la vieille Europe.
Ouais.
Aujourd'hui, ça arrive du monde entier. Du monde entier. De Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, de où vous voulez. Il y a des coureurs qui arrivent de partout. Et il y a forcément des talents.
Bon, voilà. Bon, écoutez, on va suivre quand même cette saison 2025.
Mais avec beaucoup d'intérêt.
Toi, oui, tu seras très prêt. J'espère que tu vas la suivre un peu quand même. Mais nous aussi, dans les grandes gueules du sport, on va suivre cette saison de vélo parce qu'il y a toujours des choses à raconter. Et on va continuer ces débats avec aussi, bien sûr, Pogacar, Vingegaard, le Tour de France. On a d'y être déjà avec Ludo, bien sûr. Et avec vous tous les fans de vélo qui nous écoutez. Dans un instant, ça va être le débat caché. On remercie Jérôme d'être passé au 32-16. N'oubliez pas d'ailleurs de faire comme Jérôme, le 32-16, pour venir interpeller une grande gueule. Ça sera à 11h45. Mais d'abord, le débat caché. Dans moins d'une minute sur RMC, on revient.
RMC, jusqu'à midi, Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 11h29, vous écoutez les grandes gueules du sport. C'est jusqu'à midi avec aujourd'hui Ludovic Duchesne, Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Marc Madio. Et dans 15 minutes, c'est votre moment. Les GG et vous, le 32-16, ouvert bien sûr dès maintenant. N'hésitez pas à rejoindre le standard pour réagir à nos débats. Venez alpaguer les GG, une GG de votre choix. Elles n'attendent que ça, vous le savez. Juste avant le débat caché, on va rejoindre Léna Marjac qui suit pour nous le Super G. Ça se passe à Bormio après la descente hier. Salut Léna.
Salut François, salut à tous.
Salut.
Alors, ça va bientôt démarrer. Il y a quelques petites infos quand même à donner, hein, notamment Alexis Pinturo.
Oui, Alexis Pinturo qui finalement ne prendra pas le départ de ce Super G ce matin en raison d'un virus. Il n'est donc pas en état de prendre le départ. Il y a une gastro qui tourne depuis quelques jours au sein de cette équipe de France et donc bah physiquement c'est compliqué pour nos skieurs. Et aujourd'hui c'est Alexis Pinturo qui en fait les frais. Il a justement mis un petit message pour dire qu'il n'était pas dans des dispositions physiques et mentales. Et mentales, c'est en raison également de cette grave blessure, cette grave chute qu'a subi Cyprien Sarrazin, lui aussi grand absent aujourd'hui, on le sait, il a été opéré d'un hématome intracrânien. Son état est stable en tout cas. On attend plus de nouvelles. Il reste sous observation à l'hôpital proche de Bormio en Italie. Donc voilà les deux grands absents. Ça va être un week-end compliqué jusqu'au bout pour cette équipe de France. Ils seront quand même 7 au départ aujourd'hui avec le premier qui s'élancera, le premier tricolore, c'est Nils Allègre avec son dossard 9. Et puis derrière, on retrouvera Adrien Théo, Florian Loriot, Blaise Gizendaner, Nils Alphand, Mathieu Bellet et Léo Ducrot. En espérant eh bien que quand même ils arrivent à se libérer un petit peu sur les skis, sur cette fameuse piste du Stelvio, piste toujours brutale et dangereuse comme on a pu le voir notamment lors de la descente où on va avec des vitesses assez excessives. Donc on verra aujourd'hui ce que ça va donner pour nos bleus et on suivra évidemment l'homme aussi en forme, c'est le Suisse Marco Odermatt.
Merci beaucoup Léna, on va suivre ce Super G effectivement avec toi, mais tout de suite c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Et le guet-apens du jour, messieurs dames, c'est ça.
Remember his name, Rafael Nadal. We have a new champion.
Une autre victoire encore pour ce jeune prometteur, Rafa.
Absolutely brilliant. And he's done it again. Rafael Nadal takes Roland Garros.
El mundo tiene un nuevo número.
Chapitre dans l'histoire incroyable du tennis.
22 Grand Slam titles.
C'est simplement imparable.
It's the end of an era.
Raphaël Nadal, tout jeune retraité, qui a évoqué son avenir dans une interview donnée à Arab News et The National. Il a été interrogé sur la possibilité de devenir entraîneur et a déclaré « Il ne faut jamais dire jamais ». Avant d'ajouter, il est trop tôt pour penser à ce genre de choses, j'ai juste besoin d'organiser ma vie. Pour l'instant, je ne me vois dans aucun projet de ce genre, mais je ne sais pas à quoi ressemblera ma vie dans 1, 2 ou 3 ans. Alors, cette question, à partir de là, les GG, est-ce qu'un grand champion fait forcément un grand entraîneur ? Marc Madio.
Parfois.
Marion Bartoli.
Forcément non, mais je pense que Rafa sera un très grand entraîneur.
Sarah Pitkowski.
Ouais, non, c'est pas systématique.
Ludovic Duchesne.
Ouais, tout pareil que Marion.
Tout pareil que Marion. Bah, on va l'écouter, Marion, justement. Après, donc, cette nouvelle. Rafa, tu le vois comme un grand entraîneur?
Oui, absolument, parce qu'il a une passion du jeu. C'est un petit peu comme Pep Guardiola, même si je pense qu'il sera beaucoup moins excessif, mais c'est quelqu'un qui a tellement poussé le curseur de l'investissement personnel au quotidien à son maximum pour sa carrière, qu'il arrivera à transmettre cela à la personne qui l'entraînera. Après, ce qui est très intéressant de voir, c'est s'il va finalement s'investir dans son académie qu'il a déjà, où il y a énormément de jeunes, pour justement être dans la formation d'un joueur qui a 12, 13, 14 ans et l'amener sur le circuit professionnel, qui est un travail complètement différent d'avoir que de prendre un joueur qui a déjà gagné ou qui est déjà sur le circuit et de l'amener encore plus haut. C'est vraiment deux travaux qui sont à l'opposé quasiment. Donc je pense qu'il va plus s'investir dans son académie qui est déjà immense, où il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire comme lui, de devenir un champion. Je pense que c'est ce qui le motive le plus, être à leur côté au quotidien. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va transmettre beaucoup de choses. Il l'a fait sur un terrain, de donner tellement à travers son jeu qu'il sera capable de donner la même chose et de donner tout son savoir et toute son énergie aux jeunes pépites qu'il a dans son académie.
Mais donc ça serait bien de le voir en tant qu'entraîneur, Sarah, ça te dirait aussi, j'imagine.
Oui, oui, ça me dirait. En tout cas, il y a eu un phénomène de mode dans le tennis, je dirais que c'était des années 2010, où effectivement les meilleurs mondiaux ont petit à petit fait appel à d'anciens numéro 1. Je présume, parce que je n'ai pas été dans ce cas-là, que c'était pour des petits réglages. En tout cas, tu viens pas chercher un Edberg, un Becker, un Agassi pour changer ton coup droit, ton coup droit, ton revers, ton service. Je pense que ces grands joueurs viennent chercher d'anciens grands joueurs pour partager des émotions, des sensations, peut-être des peurs ou des motivations qu'ils ont déjà ressenties et voir comment on peut confronter les avis pour continuer à toujours avancer. C'est d'ailleurs le choix de Djokovic d'aller chercher Andy Murray. Il cherche peut-être un nouveau souffle. Et après, il y a un autre métier, Marion le disait, c'est inspirer les plus jeunes, c'est-à-dire de pouvoir leur inculquer une rigueur, un travail. Et en ça, Nadal a toujours été un exemple irréprochable, que ce soit de travail, de fair play, d'investissement. Et c'est vrai que peut-être qu'au fur et à mesure des années, il verra là où il veut transmettre son expérience. Mais je le verrai plus effectivement auprès de jeunes parce qu'il a une culture du travail qui est quand même extrêmement particulière et que peut-être que c'est ça aujourd'hui que les plus jeunes auraient besoin de comprendre. Parce qu'on voit au plus haut niveau, mais on ne se rend pas compte du travail qui est fait dans les plus jeunes années. Et lui est un exemple parfait.
Voilà. Il est drôle ce débat parce que je viens de réaliser qu'on en a un exemple sur le plateau. Donc un ancien grand coureur qui est devenu un grand entraîneur, je crois qu'il y a Marc Madio. Donc c'est forcément... Oui, mais est-ce que c'est évident? Moi, je dirais non.
Il faut avoir envie, surtout.
Il y a des contre-exemples. Oui. C'est pas parce que t'as été un grand que tu sais retranscrire.
C'est même parfois compliqué.
Oui, oui.
Justement.
Je vais pas dire que ça a été un mauvais entraîneur, mais je sais que par exemple pour Jean-Pierre Papin, c'est peut-être un peu plus compliqué, même si, voilà, il essaye en tant qu'entraîneur, mais Zidane, c'est plutôt bien débrouillé.
Donc,
je pense que c'est pas évident. Voilà, je pense après Marc.
Il y a eu des doutes, notamment pour revenir sur le foot, sur Thierry Henry, à un moment donné, quand il est arrivé à Monaco.
Il a avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Oui.
Beaucoup des sports.
Il a eu du mal
On n'apporte pas la même chose si on est dans le cyclisme que dans le football ou que dans le tennis. C'est pas la même chose.
Ouais. Déjà, le tennis, le rôle de l'entraîneur est différent.
Le rôle de l'entraîneur est l'apport qu'on va faire auprès de l'athlète ou du compétiteur est totalement différent suivant les sports.
C'est-à-dire que dans le tennis, par exemple...
Tennis, il y a un joueur, un entraîneur.
Oui.
Moi, par exemple, j'ai une quarantaine de coureurs en tout. Et je ne suis pas avec eux 24 heures sur 24.
Ouais.
En football, l'entraîneur a une bonne vingtaine de joueurs à disposition. Et il les voit tous les jours.
Et il est sélectionneur.
Et il sélectionne.
Moi
aussi, je sélectionne, mais j'ai une palette de courses plus large. Donc, je vais donner un programme le plus cohérent possible à tout le monde. Moi, mon rôle, ça va plus être de stimuler et de
coordonner. Et puis, tu as un objectif, que ça soit un Français ou un étranger. Le but, c'est qu'il y ait un gars d'équipe qui gagne. Ouais.
Après, en tennis, je ne suis pas persuadé. Peut-être que Marion et Sarah...
L'approche n'est pas la même parce que... En tennis, soit tu gagnes, soit tu perds. En foot, soit tu gagnes, soit tu perds. En cyclisme, par exemple, si tu fais deuxième ou troisième du Tour de France,
c'est déjà exceptionnel.
On n'est pas dans les mêmes schémas.
Ouais. Non, mais les Lendl, les Becker, est-ce qu'ils ont vraiment apporté en tant que coach?
Je pense.
Lendl, énormément,
Après, il y a un autre phénomène qui est important dans tout ça, c'est l'implication et les temps de déplacement. Quand on s'appelle Nadal et qu'on a fait la carrière qu'il a faite et la longueur de sa carrière.
Il a peut-être pas envie de repartir.
Il a peut-être pas envie de passer son temps dans les avions comme il l'a fait pendant plus de 10 ans.
C'est pour ça, je pense que ce sera son académie.
Donc, franchement, c'est très variable d'un.
Ouais, faut avoir l'envie.
Moi, j'aimerais juste prendre l'exemple de
Marion. Et il faut avoir le déclic. Je pense qu'il faut avoir le déclic aussi. Moi, j'avais un déclic qui s'installait en moi quand je mettais mon dossard, quand j'étais coureur.
C'est-à-dire?
Je me transformais mentalement. À l'entraînement, j'étais une personne, et quand j'étais en course, avec le dossard dans le dos, je devenais quelqu'un d'autre. Il y avait de l'agressivité, il y avait de la méchanceté, il y avait une transformation. Quand je suis entraîneur, c'est la même chose. J'ai le nœud à l'estomac. Tant que j'aurai le nœud à l'estomac quand je suis dans l'accompagnement de mes coureurs,
j'apporte ou je sers à quelque chose. Le jour où je n'aurai plus le nœud à l'estomac et que j'irai au départ des courses en ayant une espèce de vie dans moi, ça sera fini.
Mmh. Bah oui, non mais
moi
c'est...
j'aimerais prendre l'exemple de.
Vas-y Marion.
De Juan Carlos Ferrero, qui pour moi est très intéressant, qui a été numéro un mondial lui-même, vainqueur de tournoi du Grand Chelem, et qui a pris Carlos Alcaraz très jeune. Il avait 12-13 ans quand il a commencé à l'entraîner pour l'amener à être numéro un mondial, vainqueur du Grand Chelem. Et je pense que Rafa, ça serait vraiment le prototype qu'il pourrait suivre. C'est-à-dire au départ, rester dans son académie, rester dans sa ville, être auprès des jeunes, plus voyager, comme le dit Marc, rester avec son fils, le voir grandir, etc. Et pourquoi pas s'il voit qu'un joueur a la capacité à justement comprendre ce que lui essaye de lui transmettre, à faire ce projet le sien et qu'il arrive à développer quelque chose d'extraordinaire, ensuite le suivre et l'accompagner jusqu'au plus haut niveau. Je pense que c'est vraiment un projet qui pourrait être totalement dans les cordes de Rafa et qui pourrait être énormément l'intéresser.
Et puis c'est aussi une histoire de rencontre.
Oui, tout à fait. Tout enfin, quand tu es sur un sport individuel, c'est une histoire de rencontre.
Si quand tu t'appelles Nadal, il n'est pas dans le besoin, il n'entraînera que s'il a un coup de cœur et s'il a une... connexion avec un joueur. S'il a pas ça, ouais. je le vois pas s'investir
avec Alcaraz. Non, pourquoi pas, non, ça pourrait être une bonne association.
Non, mais il y a déjà Juan Carlos Ferrero.
Il a Ferrero,
oui, il y a déjà Ferrero. Je le vois pas en train de repartir sur le circuit et de faire 30 semaines l'année, ouais. Je le vois vraiment pas en train de faire ça. Pour le coup.
Ouais. Non, mais de temps en temps, ils peuvent venir sur certains tournois, et puis il faut qu'il ait peut-être le coup de foot pour un joueur. Mais moi, ouais, c'est vrai qu'on a
pas. Il faut que cette connexion se fasse.
Oui,
c'est-à-dire que.
Mais dans son académie, ça peut se faire. Bien et après, sûr. C'est vrai qu'on a. Moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'il réussisse, par exemple. Nadal, pour moi, c'est une évidence. Mm. Il a l'intelligence, il a tout ce qu'il faut, et il a un petit palmarès. Donc,
il faut qu'il ait la connexion avec un joueur.
Après, ça peut être aussi des joueurs qui veulent progresser sur terre battue et qui vont venir chercher chez Nadal quelque chose en particulier sur cette surface-là. Ça peut aussi se faire. Et effectivement, ce sera peut-être des phases de suivi plus courtes.
Enfin,
oui, plus courtes. Et c'est peut-être plus digérable quand tu finis ta carrière et que tu as besoin peut-être de rester à la maison ou en tout cas d'établir une vie stable que tu n'as pas eue pendant 25 ou 30 ans.
Je reprends, puisqu'on a des grands sportifs autour de la table.
Merci.
De rien, Ludo. Marc, toi, tu le savais quand tu étais coureur que tu allais être entraîneur ?
Oui.
Ah, d'accord.
Je l'ai su les dernières années de compétition. Moi, comme je dis souvent, j'ai eu la vocation d'être coureur comme on a la vocation d'être curé. Mm. Et quand je suis arrivé dans la dernière partie de ma carrière, quand je disais tout à l'heure, le dossard, c'est ce qui me faisait me transformer. La dernière année ou les deux dernières années, j'avais de moins en moins souvent la transformation qui se faisait dans ma tête. Mm. Et quand je suis devenu entraîneur, quelque part, même si c'est pas tout à fait le même rôle en vélo, j'ai cette flamme et j'ai ce conditionnement. Je suis pas le même personnage quand je suis en course avec mes coureurs ou quand je suis avec eux en stage que quand je suis à la maison. Je suis pas la même personne. Il y a un déclic qui s'installe le matin au petit déjeuner. Et tant que ce déclic est là, je vais être dans l'agressivité, je vais être dans l'enthousiasme, je vais être dans la motivation, ouais. Et dans l'accompagnement.
Et donc servir à quelque chose, effectivement.
Mais tant que j'ai envie d'aller, je vais vous donner juste un exemple. Quand on est en stage d'avant-saison, on fait des longues sorties d'entraînement et on est dans la voiture derrière les coureurs. En fait, quand je suis dans la voiture, avec l'entraîneur ou le directeur sportif, je ne sers à rien. Mm. Je ne sers à rien. La seule différence, c'est que mes coureurs voient que je suis là. Je ne vais à la limite que très peu parler, mais sur les 6 heures d'entraînement qu'ils vont faire, je vais être là pendant 6 heures dans la voiture avec eux. Le jour où je n'aurai plus envie de monter dans la voiture pour faire les 6 heures juste pour les accompagner et les suivre, il ne servira à rien, il sera l'heure de rentrer à la maison.
Marion, toi, tu as entraîné. Hein.
Parce que ce qui est important, ce n'est pas l'entraîneur, c'est ce que va ressentir le sportif.
Bien sûr.
Si le gars que j'accompagne est en osmose et en connexion avec moi et avec le staff de l'équipe, il va forcément progresser et s'améliorer et on va lui apporter quelque chose. S'il n'y a pas cette connexion, J'aurais beau avoir le plus grand palmarès qui soit, ou avoir été le Guardiola du football ou autre, je ne servirais plus à rien.
Ouais. Et donc, je disais, effectivement, on a des entraîneurs autour de la table, hein, puisque Marion, toi, tu entraînes.
C'est ça. Voilà, hein. J'entraîne toujours. Effectivement, j'ai entraîné sur le circuit professionnel. Yelena Ostapenko qui a gagné Roland Garros et Sorana Kirstea qui était remontée dans le top 30 quand je l'ai prise. Et puis là, j'entraîne deux jeunes qui ont 14 et 15 ans, un garçon et une fille. Et c'est vraiment un travail, mais qui est totalement différent. Mais là où je suis d'accord avec Marc, c'est que quand je les accompagne sur des petits tournois juniors et que je me retrouve au fin fond d'un pays, et même pour un double qui joue, je suis quasiment plus stressée que quand j'ai joué ma finale de Wimbledon. C'est-à-dire que je vis le match comme si j'étais sur le terrain avec eux. Je vis chaque point. C'est une passion qui est totale et qui te prend aux tripes. Et si tu l'as plus, et si je l'avais plus, je serais pas sur le terrain tous les jours avec eux. C'est même au-delà d'un besoin financier ou de.
Tu n'entraînes plus Ostapenko,
en fait,
Marion.
Une passion. Non, j'entraîne plus Ostapenko. Elle m'a demandé de la suivre pour l'Open d'Australie. Et là, comme je m'en occupe de ces deux jeunes à plein temps, ça m'est pas possible.
Est-ce que c'est toi qui lui conseille ses tenues vestimentaires?
Non, c'est pas moi.
Non, c'est pas toi. Ça me rassure.
Mais par exemple, Ostapenko est un très bel exemple. Quand je la prends, elle est 90e mondiale, elle est quasiment en train de sortir du top 100. Et en deux semaines, elle avait gagné 9 matchs sur 10, elle était remontée top 30. Mais c'est un travail qui est complètement différent. Tu ne fais plus, tu fais pas de la technique, simplement de la tactique et du mental.
Ouais,
alors qu'avec
mental.
Un junior qui a 14 ans, tu fais que de la technique et tu fais un tout petit peu tactique et beaucoup de mental. Parce que chez les jeunes, il y a beaucoup de mental à faire. Mais c'est un investissement qui est beaucoup plus important dans la formation d'un jeune que sur le circuit professionnel. Sur le circuit professionnel, la formation, elle est déjà complètement faite. Donc, en fait, ton travail avant un match, c'est d'expliquer la tactique que va utiliser l'autre et donc la tactique que ton joueur ou ta joueuse doit utiliser. Et après, c'est de le soutenir point par point pendant le match. Mais tout le travail a été fait pendant les 15 ans de formation qu'ils ont eu ou les 20 ans de formation pour devenir joueur professionnel.
Et Sarah, toi, l'entraînement?
Non.
Jamais? Ça t'a jamais, non?
Non, je pense ne pas avoir les qualités pour.
Pourquoi?
Parce que la transmission.
Sarah,
je
vais te donner une anecdote.
Oui.
On a commenté un double ensemble avec Sarah à Roland-Garros. Ça a été à deux doigts de rentrer sur le terrain et de montrer à la fille qui était en train de jouer les énormes erreurs qu'elle était en train de faire. Okay.
Je n'ai pas le recul nécessaire.
La fibre, voilà.
J'ai pas le recul nécessaire. Oui, mais ce sont des métiers. La pédagogie est totalement différente.
C'est intéressant. C'est bien de le reconnaître parce que c'est pas forcément évident. Il y en a qui se trompent.
Quand on accompagne ou qu'on entraîne, la première chose qu'on apprend, c'est la patience.
Ah, oui. Bah alors c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Là.
Et même quand on est
c'est peut-être pour ça que ça peut pas marcher chez moi.
Oui, non, mais c'est sûr que c'est quelque chose d'important, la patience. Hein, Ludo, toi non, on t'entraîne pas, toi.
Non, mais ça doit être passionnant. Je me mets à la place de Marc ou de Marion. Mais pourquoi Marion la Fed Cup, tout ça, non? Ça peut pas être pour toi?
À la Fed Cup, on m'a pas demandé. Mais j'irai avec un immense plaisir.
Bah voilà.
Mais ça, j'ai passé en fin d'année.
Et ça, c'est encore autre chose. Parce que la Fed Cup, c'est presque une sélection. Enfin, c'est encore un autre métier. Oui, parce que là, c'est encore ultra ponctuel.
Mais quand t'es complètement
bien sûr. C'est encore une autre manière de coacher. Hein.
Ouais. Bon, voilà. Bah, écoutez, on a fait le tour sur cette histoire d'entraîneur. Et c'était passionnant, en tout cas, tout ce que vous nous avez raconté sur justement ce nouveau rôle pour certains d'entre vous. 11h40. En tout cas, on va continuer les grandes gueules du sport jusqu'à midi en direct avec votre moment, les GG. Vous, c'est à vous de prendre les commandes de l'émission. Vous venez dire à une GG ce que vous pensez de l'émission. N'hésitez pas, 32-16, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
De retour dans les grandes gueules du sport. Les grandes gueules du sport à retrouver en podcast dès maintenant sur l'appli RMC. Marion Bartoli, Marc Madiot, Ludovic Duchesne, Sarah Pitkowski ce matin. Il vous accompagne depuis 9h et Sarah a fait un appel à Martin Fourcade pour qu'il réagisse.
Ah, parce qu'il est là ?
Alors, on a essayé de le joindre. Il t'a entendu, mais il ne peut pas se libérer. Voilà le message qu'il te laisse. Je te le lis, hein, c'est pour toi. Hein.
Oui.
Merci pour votre message. Malheureusement, pas possible de me libérer ce matin. Très belle journée et bonjour à Sarah.
Eh ben, écoute, bonjour Martin.
C'est un message. C'est vraiment Martin Fourcade qui écrit. Hein.
Pour sa 6e médaille, qu'il n'a pas gagné dans son canapé, c'est sûr.
Voilà, donc on essaiera de faire ce débat quand même si Martin veut bien un jour rejoindre les grandes gueules du sport.
Je reviens en début d'année, donc...
Avec Martin en direct. Allez, 11h49, c'est le moment de passer à votre moment, les GG et vous.
RMC,
les grandes gueules du sport et vous.
On est avec Nicolas qui a fait le 32-16. Bonjour Nicolas.
Bonjour François, bonjour à tous.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Tu veux parler à qui?
À Marion.
Ah bah c'est bien,
ah, bah, tant mieux,
c'est,
Alina.
C'est courageux et je sais pourquoi.
Oh, mais tu fais passer pour la grande méchante.
Pas du tout, pas du tout. Mais bon, quand il faut s'affronter, faut être armé. On oui, va écouter faux. Pourquoi Nicolas appelle. Qu'est-ce qui l'intéresse?
La nouvelle génération de fans ne regarde plus le foot, voilà. Ils peuvent plus, ça, ils peuvent plus s'asseoir dans un canapé et regarder les matchs comme nous pendant plus d'une heure trente. Les gamins, ils sont sur TikTok, ils vont sur le réseau social de leur club. Oui. Bref, pourquoi les audiences de DAZN sont catastrophiques? La nouvelle génération ne consomme plus le football comme nous on le faisait il y a 20-25 ans.
Voilà, c'était notre débat de 9h. Le foot va-t-il dans le mur? Et Nicolas, tu n'es pas d'accord visiblement avec Marion. On t'écoute. Et
non.
Elle t'écoute.
Non, bonjour Marion, déjà. Non, l'argument TikTok, bonjour. Pour moi, il est un peu fallacieux, parce que si on fait le parallèle avec le rugby, ça veut dire que les jeunes qui suivent le rugby ne sont pas sur TikTok. On regarde les audiences du dimanche, TF1 qui veut récupérer les droits, c'est qu'il y a quelque chose. Ce qui a fait qu'on ne regarde plus la Ligue 1, c'est le prix. Je veux dire, à 30 euros ou 40 euros par mois pour regarder Brest.
Ah, je l'ai dit aussi, le prix de l'abonnement.
Que j'ai pour ces équipes. C'est un peu léger. Et l'autre problème, c'est, ça a été dit dans vos débats, c'est il faut Canal+ pour regarder la Ligue des Champions. Il faut DAZN pour la Ligue 1. Si on veut la Serie A, il faut être abonné sur le site de l'équipe. Il y a trop, je dirais, il y a trop de foot, je pense. Il y a trop de matchs, il y a trop de compétitions.
On choisit.
De Ligue des Champions. On a 41 matchs en une soirée, on ne sait plus où donner de la tête. Je pense que malheureusement, les joueurs deviennent trop gourmands, les ligues, fédérations deviennent trop gourmandes et on les est plus gros que le ventre. Donc je pense que si demain la Ligue 1 revient, par exemple, je donne l'exemple de la Ligue 1 où elle revient sur Canal le dimanche soir, ben je vous mets ma main coupée que ça va remarcher du feu de Dieu. Certes, ils atteindront peut-être pas le milliard, mais ils reviendront à des ventes, je dirais, un peu plus décentes que maintenant. Et les téléspectateurs reviendront, et les fans reviendront.
Et Nicolas, vous regardez quoi, le Sporting ou la CA, non?
Tout à fait. Ah, vous êtes observateur. Oui, non, tout à fait. Je vous donne l'exemple. Grâce à Monsieur Labrune, je vous donne l'exemple de ce que ça a impliqué les droits télé, parce que je tenais à le dire. Il nous manque 2 millions d'euros dans notre budget. Si on a fait et devinez combien,
oui,
c'est 2 millions.
Oui, oui.
Ben, la baisse des droits télé. Voilà.
Nicolas,
pour des clubs comme le Bastia ou l'Ajaccio, c'est important.
Eh bien sûr.
Eh oui.
Marion, donc bon, finalement Nicolas, il te rejoint quand même, pas sur cette histoire de que les jeunes ne consommeraient plus le foot comme avant. Mais tu sais,
on a le même problème nous dans le tennis. J'en reviens là-dessus parce que quand je parle des jeunes, c'est des gamins qui ont entre 12 et 16 ans, 12 et 18 ans. On a exactement le même problème dans le tennis. Pour arriver à les faire venir dans un stade, regarder un match, s'asseoir pendant tout un match, oui, parfois, quand ils viennent en famille à la Roland-Garros, on y arrive. Mais le tennis était en train d'essayer justement de se moderniser, de trouver des plateformes différentes et des moyens de donner du contenu de manière différente à ces jeunes-là. Je parle vraiment de la population de 12 à 16 ans. Je ne parle pas des gens qui ont des abonnements, qui payent leur abonnement, qui vont dans les stades, ou des adultes qui payent leur abonnement pour avoir la possibilité de regarder les matchs à la télévision. Je parle vraiment d'une catégorie de jeunes qui sont effectivement beaucoup sur un téléphone portable toute la journée et qui consomment l'information dans sa totalité, qu'elle soit sportive ou autre, d'une manière différente. Qu'on pouvait l'avoir nous-mêmes lorsqu'on avait entre 12 et 16 ans. Et ça, c'est une réalité. En revanche,
ce sont les futurs téléspectateurs. C'est pour ça que c'est important.
Exactement. En revanche, tout ce que tu as dit derrière, je suis complètement d'accord avec toi. Le prix de l'abonnement est prohibitif. C'est un réel problème. Qu'il y ait des matchs sur des diffuseurs différents et qui donc noient un petit peu le téléspectateur qui ne sait plus où il doit regarder son match, c'est un réel problème. On a reçu un auditeur tout à l'heure qui justement avait un investissement important dans différents abonnements pour pouvoir proposer à sa clientèle dans son bar-restaurant des matchs et qui voyait une grosse diminution de la population qui venait voir les matchs. Il faut arriver à faire comme la Première Ligue est capable et continue de le faire, c'est-à-dire de sacraliser vraiment un moment précis dans une journée où on s'assoit et on va regarder le match, que ça soit chez soi, que ça soit dans un bar ou au restaurant avec ses copains. Mais je pense que d'avoir un contenu qui est mélangé à travers beaucoup de canaux et aussi trop de matchs, et donc ça se dilue dans une espèce de pot commun comme ça en permanence, ça a toujours quasiment quelque chose à regarder, mais tu finis par même plus savoir quoi regarder et ce que tu regardes exactement, je pense que ça perd beaucoup de sa valeur.
Voilà Nicolas, elle t'a répondu Marion, tu vois, vous êtes pas si éloigné que ça finalement.
Tout à fait.
Nicolas, ça va bien se passer les fêtes en Corse?
Écoutez, oui, hein, oui, là il fait beau temps, donc on a eu.
Parce que si tu m'invites, moi j'ai rien de prévu et ça m'intéresse.
Ah, mais volontiers, François, tu es bienvenu.
Non, mais.
Je peux rire quand
on est en train d'essayer de se casser quelque part.
Bah oui, bah, c'est toujours le problème du 31, c'est qu'en en fait, il faut le prévoir maintenant, un peu à l'avance, parce que sinon on se retrouve.
Tu sais quand même, Nicolas, que Bart, au lycée, c'est quand même bien corse aussi. Hein.
Ah. Mais je sais que tu traînes beaucoup du côté de l'Eurose, Marion, je me permets de te tutoyer, je connais bien le club là-bas. J'embrasse le club de l'Eurose.
Et ben voilà. Bon, merci voilà. Nicolas en tout cas, d'être passé et puis bonne fête à toi.
Merci, bonne fête à vous, pas de salut.
Bonne fête.
Salut, merci bonne beaucoup fête. D'être passé. Un petit détour par le ski avec Léna Marjac, avec une course, un super G interrompu longuement. Léna à Bormio.
Oui, ce sont des images qu'on n'aime pas voir parce que ça nous rappelle évidemment cette lourde chute il y a deux jours de Cyprien Sarrazin. Et là, c'est un Suisse, Gino Cavizel, avec son dossard qui a lourdement chuté. On l'a vu se prendre une porte de plein fouet, déchausser et glisser sur plusieurs mètres cette piste avant de lever la main pour appeler à l'aide. Il a été litreillé, semble être touché à la jambe droite. Donc voilà, on a vu de nouveau cet hélicoptère décoller de Bormio, direction donc l'hôpital pour Gino Cavizel. Ça nous rappelle de mauvaises images, donc on espère que la suite de ce Super G va bien se passer. En attendant, eh bien, c'est un Norvégien qui est en tête, c'est Frédéric Moller, et on aura 7 Français à suivre. Le premier, ce sera Nils Allègre avec son dossard 9.
Et bon, on va le suivre bien sûr sur RMC en direct avec toi, Léna. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci Marion, merci Marc,
merci Ludo, merci Sarah. Amis. Bonne fête à tout le monde.
Bonne fête.
En 2025.
Bon dimanche. Allez.
Bon réveillon à tous. Profitez bien, avec modération bien sûr.
Bien sûr.
Hein, comme d'habitude.
Toujours.
Et on vous souhaite à tous de très très belles fêtes de fin d'année, à tous ceux qui nous écoutaient. Les grandes gueules qui reviennent donc l'année prochaine avec Jean-Christophe Drouet qui sera de retour lui aussi de vacances. Bonne journée à l'écoute d'RMC tout de suite, ce sont les paris.
Ciao.
RMC, à tout de suite.
Jusqu'à 13h,
les paris RMC.